OK, on était rendu pour ceux qui ont les notes de sermon, la page 21. Je veux simplement dire, dans l'enregistrement, pour ceux qui écoutent les enregistrements audio et que les personnes aimeraient suivre un peu ce qu'on est en train de lire, ben que quand vous allez sur Internet, vous cliquez sur « Sauver » et vous avez le choix de télécharger le fichier en audio et aussi de télécharger le fichier PDF. Alors, pour ceux qui suivent là, par Internet, pour que vous puissiez savoir quoi faire si vous voulez avoir les notes. Donc, on était rendu à la page 21, le numéro qui est 24, qui parle du chapitre 14, à partir du verset 33 jusqu'à 57, plus le chapitre 15. Alors, bien entendu, le chapitre parle de la lèpre. Alors, la lèpre dans la maison est l'image du péché dans une assemblée ou même dans ce qui porte le nom d'Église, la chrétienté tout entière. En regardant de près l'assemblée d'Éphèse, au chapitre 2 de l'Apocalypse, nous y discernons, ou plutôt le Seigneur, grand sacrificateur dont les yeux sont semblables à une flamme de feu, il discerne déjà une petite tache suspecte, l'abandon du premier amour. Tout le reste semble bon, œuvre, travail, patience, mais voyez ce que devient ce petit commencement. Une lèpre véritable à Pergame, où certaines pierres de la maison sont atteintes de la doctrine de Balaam, d'autres de celle des Nicolaïtes. Puis le mal se développe comme un levain à Thyatire, à Sardes, jusqu'à ce que, à la Odyssée, qui représente l'état final de l'Église responsable, le Seigneur soit contraint d'annoncer « Je vais te vomir de ma bouche ». Alors la grande maison de la chrétienté professante sera rejetée, démolie. Alors, il veut tout simplement nous mentionner que dans Lévitique, l'image de la lèpre, c'est l'image du péché, et que si on y fait pas attention, la lèpre se développe. Il va arriver ce qui est arrivé dans le livre de l'Apocalypse. Ça commence tranquillement, et à la fin, le Seigneur dit « Je te vomirai de ma bouche ». Alors, on voit qu'il y a une progression. Alors, il faut faire attention. Alors, le chapitre 15, lui, poursuit le sujet de la souillure. Alors, sous l'image du flux, il nous montre tout ce que, dans notre vie de tous les jours, notre détestable caractère naturel est capable de laisser échapper pour empoisonner à la fois notre entourage et nous-mêmes. Le remède existe pour nous en purifier, c'est la sacrificature exercée en notre faveur par le Seigneur Jésus. En contraste avec les pharisiens hypocrites qui nettoyaient le dehors de la coupe et du plat, Jésus explique à ses disciples que ce qui souille l'homme, c'est tout ce qui sort de son cœur, cette source empoisonnée. Alors, après ça, on tombe dans le chapitre 16, versets 1 à 14. Alors, Aaron reçoit ici des instructions pour une occasion spéciale, celle du grand jour des propitiations. C'est à cette scène que fait allusion le chapitre 9 des Hébreux. Une fois l'an, après avoir présenté un sacrifice pour lui-même, le souverain sacrificateur offrait une victime pour tous les péchés commis pendant l'année. Puis, il portait le sang de ce sacrifice au-dedans du voile sur le propitiatoire dont le nom se trouve ainsi expliqué. Donc, le propitiatoire, c'était le couvercle d'or qui était sur le coffre. Le sang qui fait propitiation pour l'âme, y était apporté. Il rendait l'Éternel propice. Propitiation, c'est ça. Alors, il rendait l'Éternel propice, favorable à son peuple. Non pas que ce sang d'un bouc ait le pouvoir d'effacer un seul des péchés que tout ce peuple avait pu commettre pendant une année, mais à l'avance, il parlait à Dieu du sang précieux de son agneau. Alors, bien entendu, le sang que le souverain sacrificateur emmenait d'un animal qu'il versait sur la propitiatoire, c'était une image du sang de Christ qui viendrait plus tard. Alors, contrairement à ce que nous aurions pensé, ce n'est pas dans ses vêtements magnifiques qu'Aaron devait se présenter devant l'Éternel. Il dépouillait toute gloire devant celle de Dieu et ne pouvait se tenir là que vêtu de fin lin, symbole de justice pratique. La bonne odeur de l'encens accompagnait Aaron au-dedans du voile, de même que Christ est entré au lieu saint, offrant à Dieu le plein parfum de toutes ses gloires excellentes. Alors, ensuite, on a le Lévitique, chapitre 16, les versets 15 à 22. Alors, le sacrificateur pénétrait à l'intérieur du voile, entouré d'un nuage d'encens, pendant que le peuple, dans la crainte, attendait au dehors. L'Éternel accepterait-il le sacrifice? Si quelque chose n'était pas en ordre, Aaron n'allait-il pas périr comme ses deux fils aînés? Quel soulagement au moment où il ressortait, son service achevé. Prophétiquement, cette scène s'accomplira quand, venant en gloire pour Israël, Christ apparaîtra une seconde fois à salut pour ceux qui l'attendent. On peut le lire dans Hébreux 9, verset 28. Il restait à s'occuper du bouc vivant. Le premier, celui dont le sort était tombé pour l'Éternel, avait été sacrifié et ôtait le péché devant Dieu. Le second, le bouc pour Azazel, ôtait le péché de dessus la conscience du peuple. C'est pourquoi tous les péchés étaient confessés sur sa tête et il les emportait pour toujours dans une terre inhabitée. Le premier bouc servait à faire propitiation, il était pour tous. Le second nous parle de substitution d'une victime portant les péchés de plusieurs, à savoir de ceux seulement qui, confessant leurs péchés, s'approprient par la foi la valeur de la victime. Le sacrifice de Christ a ce double caractère. Alors, des fois, quand on lit ça rapidement, quand on lit Lévitique la première fois, les deux boucs, la Azazel, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Mais si on veut bien interpréter les Écritures, il faut s'habituer à voir Christ partout, parce qu'il est partout. Et tout le livre de Lévitique parle énormément de Jésus. Alors, quelque part, ça a toujours un sens avec l'œuvre de Jésus-Christ. On était rendu à Lévitique 16, versets 23 à 34. « Voyez combien était grand et délicat pour le sacrificateur et ses aides le travail nécessaire pour ôter les péchés. Et encore, tout ce service n'était-il valable que pour une année? En effet, la source des péchés, le cœur des hommes, n'était pas purifié pour autant, et ce méchant cœur ne pouvait manquer de produire encore de méchantes actions tout au long de la nouvelle année. Toujours à nouveau, il faudrait renouveler ces sacrifices, les sacrificateurs se succédant de père en fils, parce que la mort les empêchait de demeurer. » Alors, pas pour rien que Christ, lui, souverain sacrificateur pour toujours. Tandis que eux, c'était caca que le souverain sacrificateur mourait, c'était ses fils qui prenaient la relève. C'était toujours comme ça, de père en fils. Alors que Christ, la différence, c'est que lui était le souverain sacrificateur, mais il n'a pas eu besoin d'avoir de descendants, c'était pour toujours. Combien plus grande est l'œuvre de Christ dans toute sa réalité, dans sa portée, exigeant son propre sacrifice? Pour ôter le péché du monde, pour annuler toutes ses conséquences, mais aussi pour atteindre la source, le cœur de l'homme et le purifier. Jésus a été entièrement seul. Personne ne pouvait y prendre la moindre part. Que faisait le peuple pendant ce grand travail du sacrificateur? Il ne pouvait et ne devait rien faire, sinon affliger son âme. Une œuvre était accomplie en sa faveur, sur laquelle il se reposait. Eh bien, c'est aussi tout ce que nous avons à faire, nous reposer sur l'œuvre suffisante et parfaite du Seigneur Jésus. Ensuite, on a Lévitique, on est rendu chapitre 17, versets 1 à 16. Alors, ça parle beaucoup de sang dans le chapitre 17. Alors, Dieu se réserve la propriété du sang. Sous son regard, dans le lieu très saint, se trouve désormais, renouvelé chaque année, le sang des sacrifices offerts. Et ce sang, indispensable au maintien des relations du peuple avec lui, parle constamment au cœur de Dieu de l'œuvre de son Fils bien-aimé. Plusieurs passages de l'Écriture établissent les vertus du sang de Christ. Il fait propitiation pour l'âme. Il purifie de tout péché. La moindre faute que nous avons commise doit être effacée par ce sang et ne peut l'être qu'ainsi. Par lui, nous avons acheté de toute nation, nous avons été rachetés, lavés, justifiés, réconciliés, sanctifiés, approchés. Par lui, un chemin a été ouvert jusque dans les lieux saints. Par lui encore, la victoire nous y est acquise. Précieux sang de Jésus, sa vertu, son efficacité est une pierre d'achoppement pour ceux qui ne la saisissent pas par la simple foi, mais pour les racheter, elle est un motif éternel de louange et d'adoration. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. On a Lévitique 18, versets 1 à 5, et le chapitre 19, aller jusqu'au verset 19. Les ordonnances qui sont contenues dans ces chapitres ont en vue la sainteté pratique du peuple de l'Éternel. Elles ont trait à la miséricorde, à l'honnêteté et à la vérité, à la justice, à la bienveillance et à l'amour. Il est humiliant de retrouver les mêmes mises en garde adressées à des chrétiens dans des épîtres telles que celles aux Éphésiens ou aux Colossiens. Ce qui prouve que la vieille nature chez un enfant de Dieu n'est pas meilleure que celle de l'Israélite d'autrefois. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, commence le chapitre 18, avant d'énumérer les souillures de la chair que l'Éternel a en abomination. Voici donc ce que je dis, enseigne Paul aux Éphésiens, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche. Marchez dans l'amour, conclut l'apôtre, et c'est aussi le résumé que propose le verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus a cité ce verset et l'a lui-même parfaitement illustré. Jacques l'appelle pour cette raison la loi royale, donc celle du roi, selon les Écritures. Ensuite, on a le chapitre 19, à partir du verset 26 à 37, suivi du chapitre 20 jusqu'au verset 27. Cette section du livre, constituée par les chapitres 19 et 20, commence et s'achève de même en spécifiant qu'Israël devait être le peuple saint d'un Dieu saint. Et presque chacun des commandements de ces chapitres est ponctué par leur appel. « Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » À plus forte raison, ceux qui font aujourd'hui partie de la famille de Dieu ont-ils à reproduire la sainteté du Père saint dont ils sont les enfants. C'est pourquoi Pierre cite ce verset 2 du chapitre 19 en le complétant « Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » Comme on lit dans 1 Pierre chapitre 15 et 1 Pierre 1 verset 15 et 16. Ce n'est plus seulement « car moi je suis saint, mais comme je suis saint. » Alors, quelle mesure nous est donnée là? Oh, donc, on ne se sanctifie pas car Dieu est saint, on se sanctifie comme Dieu est saint. Il y a une grosse marge de différence entre les deux. Le verset 32 attire notre attention sur le respect dû au vieillard. J'ai aimé ça lire ça. Parce que les Écritures nous disent que les vieux, pour les chrétiens, il faut les respecter. Alors, je suis rendu un petit vieux, ça fait que vous me devez respect. Tous ceux qui sont vieux, on leur doit des respects. Comme chrétiens, le Seigneur, il mentionne, c'est le Seigneur lui-même qui parle de ça dans les Écritures. Alors, verset 32 attire notre attention sur le respect dû au vieillard, au sujet duquel le jeune chrétien ne devrait jamais être en défaut. C'est dans notre comportement que doit se lire notre christianisme, non seulement dans l'abstention des péchés affreux que Dieu est obligé de dénoncer dans sa parole, mais dans les mille détails où trouve à s'exercer l'amour et la justice pratique. N'oublions jamais que le beau nom de Christ a été invoqué sur nous, en sorte que notre conduite, suivant ce qu'elle est, honore ou déshonore ce nom précieux. On est rendu au chapitre 21. De même que le seul fait d'appartenir à la famille d'Aaron conférait le titre de sacrificateur, tous les rachetés du Seigneur sont aujourd'hui des adorateurs. Par contre, il s'agissait d'exercer son service. Un sacrificateur pouvait être disqualifié. Le contact avec la mort, un mariage qui n'était pas selon Dieu, un défaut naturel incorrigible, privait le fils d'Aaron de ses saintes fonctions. Il était autorisé à se nourrir du pain de Dieu, tout comme ses frères, mais il ne connaissait pas la joie de le servir. Malheureusement, beaucoup de croyants sont dans ce cas. Ceux qui sont aveugles, au sens de 2 Pierre 1,9, ou boiteux, au sens de Hébreux 12, verset 13, tout en conservant leur titre et privilège d'enfant de Dieu, ne peuvent s'acquitter comme ils le devraient de leur service d'adorateur. Et c'est une grande perte, non seulement pour eux, mais d'abord pour le Seigneur. Si notre souverain sacrificateur supporte avec indulgence les défauts et infirmités des siens, ce qui nous est confirmé par Hébreux, chapitre 4, verset 15, il ne peut en revanche avoir aucune communion avec ce qui, au chapitre 22, est l'image en eux d'un péché positif, un flux ou une lèpre. La souillure chez un croyant le prive de la jouissance des choses saintes. Chapitre 22 de Lévitique. Du chapitre 21 au chapitre 22, verset 16, Dieu veille au maintien d'une sacrificature sans tâche, tandis que dans les versets 17 à 33, il s'occupe de la qualité des offrandes. N'est-il pas vraiment triste qu'il soit obligé de préciser « Vous ne m'offrirez pas de bête malade ou ayant un défaut. » Malgré ces instructions qui n'auraient pas dû être nécessaires, le prophète Malachie nous apprend que le peuple apportait de telles offrandes. Agir ainsi était doublement une iniquité. D'abord parce que c'était mépriser l'Éternel, ce qu'on n'aurait pas osé faire au gouverneur. Ce qui était invendable, on le trouvait assez bon pour Dieu. Ensuite, parce que tous ces sacrifices, parlant de Christ victime parfaite, devaient être sans défaut. Et nous, chers chrétiens, que réservons-nous au Seigneur de notre temps, de nos forces, de notre intelligence, de notre argent? Le meilleur ou seulement le surplus, ce dont nous ne savons que faire? À la différence des sacrifices pour le péché nécessaire, obligatoire, il s'agit ici d'offrandes de prospérité volontaires, facultatives. De notre part non plus, rien n'est forcé. Dieu n'exige rien. Mais plus l'amour de Jésus aura d'emprise sur notre cœur, plus nous serons exigeants à l'égard de ce que nous lui donnons en retour. Chapitre 23. Alors, le chapitre 23 parle du calendrier. Ce chapitre constitue le calendrier des jours solennels de l'Éternel. Autrement dit, des fêtes qui revenaient chaque année. Elles étaient au nombre de 7, sans parler du sabbat, jour de repos hebdomadaire dont il est question en premier lieu. On a observé que ces fêtes, dans leur succession, déploient devant nos yeux l'histoire d'Israël depuis la croix, les conseils de Dieu concernant ce peuple, ses desseins concernant l'Église, quoique d'une manière plus voilée, enfin ses desseins concernant son Fils. Tout commençait à la Pâque. Alors, si vous retournez dans la page 5, vous allez voir, vous avez les 7 fêtes qui sont là et qui ont un rapport avec les fêtes du Nouveau Testament. Très important, quand vous lisez ça, d'aller voir ce tableau-là et de vous rappeler que ces fêtes-là, ça a un rapport avec les fêtes du Nouveau Testament. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez apprécier quand vous allez le lire. Alors, la Pâque, c'est une des premières fêtes. La fameuse Pâque, on sait ce que c'était, le sang posé sur les linteaux et poteaux. Alors, le point de départ des bénédictions d'Israël, de l'Église, comme aussi du bonheur de tout homme, c'est la croix. Aussitôt, après, il y avait la fête des pains sans levain. Évoque celui qui n'a point connu les péchés et dont la séparation du mal doit être reproduite dans la marche de l'Assemblée, c'est-à-dire de chaque racheté. Le vieux levain doit être enlevé car nous sommes sans levain, rappelle Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Ensuite, tu avais une autre fête. Donc, tu avais la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices. Alors, cette première gerbe tournoyée, c'est encore Christ dans sa résurrection triomphante, premier-né d'entre les morts, présenté à Dieu selon les divers côtés de ses gloires pour que nous soyons agréés. Et ça continue à partir du verset 15 du chapitre 23. 50 jours séparaient la fête des prémices de celle des semaines qu'on appelle la Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, on sait que quand le Seigneur est parti, ça a pris 50 jours avant que le Saint-Esprit soit donné. Les fêtes, là, il faut absolument faire le lien avec les fêtes du Nouveau Testament. Comprendre que c'était des choses qui parlaient de Jésus-Christ. Plus on comprend ça, plus à ce moment-là, ça devient non seulement intéressant, mais ça devient passionnant. On voit comment le Seigneur parlait à son peuple, aux Israélites, de choses concernant Christ qui viendraient plus tard. Et la succession des différentes fêtes parle de Christ. Si on perçoit ça, déjà le livre de Lévitique devient beaucoup plus intéressant. Alors, tous deux avaient lieu le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Nous savons qu'après sa résurrection, avant de monter au ciel, le Seigneur est apparu à plusieurs reprises à ses disciples pour les consoler, les encourager, et les envoyer annoncer l'Évangile. Puis, le chapitre 2 du livre des Actes nous montre comment le Saint-Esprit est descendu du ciel le jour de la Pentecôte pour habiter dans l'Assemblée. Voyez-vous, c'est la quatrième fête. C'est important quand vous regardez le tableau que vous avez à la page 5, vous allez voir que ça tombe après qu'il y a eu la fête. Et faites les liens dans votre esprit quand vous allez lire ça, ça devient intéressant. Donc, les deux pains mentionnés au verset 17 sont un symbole de cette Église composée de chrétiens juifs et gentils. Mais ceux qui la constituaient sont encore sur la terre. C'est pourquoi le levain, image du péché, ne peut être absent de ces pains. Tels sont les premiers fruits de l'œuvre de la croix, présenté à Dieu par le sacrificateur. Et Jésus, parlant de lui-même comme du grain de blé qui devait tomber en terre et mourir, pouvait ajouter « S'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». La gerbe des prémices était le gage d'une riche moisson. Christ, homme ressuscité, ne restera pas seul dans la gloire, il reviendra avec chant de joie portant ses gerbes. On va faire le numéro 35, à page 27, on va arrêter là. Alors, chapitre 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 44. Alors, ça continue un petit peu la continuation des différentes fêtes qu'il y avait pour les peuples juifs, qui étaient au nombre de 7, à part du sabbat, comme on a vu. Alors, historiquement, nous nous trouvons actuellement dans la période qui suit la Pentecôte. Israël est mis de côté. C'est le temps de l'Église pendant lequel le Seigneur rassemble en un les enfants de Dieu dispersés. Cependant, le jour vient où tout Israël sera à son tour rassemblé. Après l'enlèvement de l'Église, le mémorial de jubilation, juste pour vous dire que ce passage-là, très important, il y a deux ou trois endroits où on parle de choses qui sont plus expliquées dans une perspective dispensationaliste. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça ce soir, parce que ce serait beaucoup, là, mais il reste qu'il y a quelques endroits où la manière dont il présente le symbolisme de tout ça, on aurait des petites variantes à dire. Mais on va quand même garder le texte, qui était bon, excepté à deux ou trois petits endroits comme cela. Quand il parle d'enlèvement, là, tout ça, là, en tout cas. Il faudrait donner plus d'explications. Alors, après l'enlèvement d'église, le mémorial de jubilation ou fête des trompettes convoquera le peuple et le réunira dans son pays en vue de la grande affliction de la sixième fête, le jour des propitiations, qui correspond aux cérémonies du chapitre 16. Israël, dans l'angoisse, attendra que paraisse à salut celui qui est maintenu dans le sanctuaire avec les siens. Et nous arrivons à la fête des tabernacles, décrite en détail dans notre lecture. Elle préfigure le règne de justice et de paix sur la terre qu'on appelle le millénium. Alors encore là, il faudrait faire des petites... mais c'est pas grave. En général, le document que je vous ai donné, il est bon, il y a juste que des endroits où on est un petit peu différent dans l'interprétation. Dans tout le merveilleux plan de grâce qui va de la croix à la gloire, Dieu s'est réservé le privilège de travailler lui-même. L'homme et ses efforts n'y sont pour rien. C'est une œuvre divine. Elle est glorieuse et magnifique. On va arrêter là pour aujourd'hui.